Paso doble.
Paso doble.
Mardi, expo.
Bonjour tout le monde, et ce mardi, on va parler d'une expo de dessin, ce qui est très rare. Et encore plus rare, l'artiste qu'on reçoit ce matin. Bonjour J.
Bonjour.
J.
Oui.
Comme les initiales de votre prénom.
Exactement.
Et c'est votre nom d'artiste ?
On m'a appelé comme ça parce que je signais mes initiales, et les gens m'ont dit, je signais J-Y-H, parce que je m'appelais Jean-Yves Hamel. Et les gens m'ont appelé J, donc j'ai arrêté le H.
J, dessinateur. Quand je dis artiste, ça vous fait sourire à ce point ?
Oh bah oui.
Aujourd'hui, on peut aller au vernissage de votre exposition à Paris, à l'espace Oppidum. C'est dans le 3e arrondissement à Paris, rue de Picardie. Et c'est jusqu'au 16 octobre. Vos dessins, on va en parler dans un instant, mais d'abord, l'intitulé de cette exposition et du livre qui l'accompagne, Matière grise.
Oui.
Pourquoi matière grise ?
Alors, matière grise, pour la raison bien simple, c'est que je travaille sur des cartons qui sont gris. J'ai fait ça parce que ça m'intéressait de partir du carton gris, voilà, et pour amener de la lumière autrement. Et lorsqu'il a fallu choisir un titre, j'ai choisi celui-là parce que c'était celui qui marchait le mieux. Et puis comme je travaille un petit peu, qu'on me traite d'intellectuel, donc je joue sur le mot matière grise, voilà.
C'est pas un gros mot intellectuel, vous savez ?
Non, pas du tout. Non, mais ça me surprend surtout.
Allez, prenons le premier dessin par exemple, puisqu'on va retrouver un personnage assez récurrent dans votre travail de dessinateur, J.
Oui.
C'est-à-dire le pendu,
oui.
Ou l'homme qui essaye de se pendre. Et là, c'est bien puisqu'il a tout, il a la corde autour du cou, mais il essaye de trouver où fixer cette corde.
C'est ça.
Et il vise la lune, le croissant de lune.
Exactement. Il est patient. Il faut attendre au moins, comment on appelle ça, que le croissant naisse, déjà.
Et qu'il puisse l'atteindre.
Voilà, c'est pour ça qu'elle est sur un tabouret. Mais ça, c'est des influences de M. Chaval, un grand dessinateur.
Il y a un côté très grave, hein, un homme qui veut se donner la mort, et pourtant on sourit parce que la vie est plus forte, parce qu'il ne va pas pouvoir y arriver pour aller très vite.
Oui. Je suis assez dans ce genre de choses, c'est-à-dire que j'aime assez bien dénoncer ce qui me fait peur, et je pirouette pour forcément, reculer au maximum cette peur, quoi, de l'amener au plus loin possible pour que je vive le plus longtemps possible.
Diriez-vous.
Joyeusement.
Ouais.
Je suis pas un malheureux. En plus de ça, je suis un homme assez joyeux et pas du tout triste. Mais à chaque fois, mes dessins sont toujours des peurs, des réactions par rapport à ce que l'homme peut faire à l'homme.
Comment un dessin naît dans votre imaginaire ?
C'est fois des écoutes, d'entendre des choses, de réagir. Par exemple, il y a un dessin où j'ai fait une marelle sur un haut d'immeuble. Et le ciel de cette marelle, eh ben, c'est le vide de l'immeuble. Tout ça, c'est parce que j'avais entendu que deux filles de 14-15 ans, deux adolescentes, s'étaient suicidées ensemble, jetées dans le vide d'un immeuble. Et j'ai pensé à la difficulté que c'est d'être à des âges comme ça où on ne sait pas où aller. Quoi. Et voilà. Et donc ça m'a fait penser à cette idée-là. Mais c'est tout, ça vient par hasard, c'est des chances. Puis des fois, on travaille sur un dessin, puis d'autres idées arrivent dessus. Je ne sais pas si je suis très clair.
Ah oui, vous l'êtes. Mais est-ce que le côté absurde, c'est quelque chose que vous voulez, à chaque dessin, prendre du recul en essayant de mettre l'accent beaucoup plus sur l'absurde plutôt que de dénoncer, d'être très direct dans votre manière de rendre compte d'une impression, de votre vision du monde ?
Disons que je suis garçon timide et que je cache souvent ce que je veux dire par des pirouettes autour et par en faisant un dessin sophistiqué, en pensant que les gens vont s'arrêter dessus sans forcément le penser. Mais j'espère toujours qu'ils vont comprendre ce qu'il y a derrière, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que ça soit trop clair des fois, donc j'aime bien laisser le temps.
Ouais.
Disons que j'aime beaucoup que si j'avais une prétention, j'aime bien quand les gens je fais un petit bout de chemin et les gens qui regardent font l'autre moitié. Et ça, si j'ai réussi à faire ça, j'aime bien. C'est-à-dire que j'aime pas quand tout est dicté. Il y a un homme que j'aime bien qui dit souvent ça, qu'on n'entre pas dans... On n'entre pas dans mes chansons comme on entre, et moi je pense la même chose. Faut pas qu'on entre dans mes dessins facilement.
Qui disait ça pour la chanson?
Brassens, sur justement, on n'entre pas dans mes chansons comme dans une auberge espagnole. Et je suis un peu là, je suis un peu comme ça aussi.
Beaucoup de noir et blanc, dessins à la plume ou au pinceau?
Le pinceau, oui. Ouais. Dominante, oui.
Est-ce que vous faites des essais, des crayonnés avant de...
Je fais beaucoup, je déchire beaucoup. C'est une des raisons d'ailleurs pour que je fais ça sur des cartons, c'est plus difficile à déchirer. C'est un de mes amis dessinateurs qui s'appelle Avoine qui m'a dit « Dessine sur des cartons ou sur des morceaux de bois, au moins tu les déchireras pas. »
Paul Avoine, que vous avez eu l'occasion effectivement et l'honneur de recevoir ici.
Oui.
Mais est-ce que vous avez l'impression qu'un dessin doit raconter votre état d'esprit et le monde dans lequel on vit? Ou est-ce que pour vous, ça reste quand même un geste poétique qui doit transcender et l'actualité et les états d'âme du moment?
Je me pose pas toutes ces questions-là, mais c'est un peu en moi, oui. C'est vrai que je suis un petit poil engagé quand même sur un certain nombre de choses. Il y a des choses que je n'admets pas, donc évidemment que c'est politique, mais en même temps, je fais pas du dessin politique.
Ça vous prend du temps, un dessin?
Oui.
C'est-à-dire?
Ça peut être, si j'ai de la chance, une journée, mais ça peut être une semaine pour certains. Parce que, comme je dis, je déchire, je recommence, je crayonne un petit poil, et puis je vois en même temps que c'est une liberté de trait que je n'arrive pas toujours à avoir.
Jean-Yves Hamel, originaire de Montfermeil, où il est né en 1948. Ça, c'est votre bio officiel. Hein.
Oui.
Et après des études en architecture d'intérieur, oui. J. publie son premier dessin en 1977 dans des revues scientifiques, étrangement.
Oui, c'est ça, médical même.
Oui. Médical.
Oui, oui.
Comment ça se fait?
C'est un ami qui aimait bien mon dessin et qui voulait que je dessine. Donc il connaissait quelqu'un qui faisait un journal un peu politique, d'extrême gauche, sur la médecine. Monsieur Monchicourt, ce qu'on crée, Médecins sans frontières et Médecins du Monde, voilà, c'est des gens formidables. Et dedans, dessiner déjà Serre, Ciné, Kerleroux, des Clozeaux, donc j'étais tout content de pouvoir commencer là-dedans.
Bah alors, quand vous avez commencé le dessin, J, comment vous vous êtes fait remarquer?
Le soir, tout seul.
Enfant, vous voulez dire, ou adolescent ou...
Non, je faisais de l'architecture intérieure et ce métier m'ennuyait un petit peu. Et au fur et à mesure, je regardais les dessins des autres, ça m'a donné envie de le faire. Et puis, le monde a ouvert à un moment à beaucoup de gens. J'avais commencé dans ce journal, le cahier de la médecine utopique. Et puis, le monde a ouvert à beaucoup de dessinateurs et j'ai présenté mes dessins et ça a plu. Et puis voilà, comme ça, j'ai rencontré ce monde de dessinateurs et grâce aux dessins que j'ai passés dans le monde.
Voilà, et parallèlement aux dessins que vous allez pouvoir placer dans des journaux comme Le Monde, ou La Recherche, ou même Télérama, ou d'autres journaux économiques, puisque vous avez fait même l'Expansion, Investir, vous avez enseigné...
Aux Arts Déco, oui.
Aux Arts Déco?
Oui. Les Arts Déco, pourquoi? Parce que ils sont dans des matières, comment on pourrait appeler ça, de l'art qui est lié au service de la société. Donc, comme j'avais des bases d'architecte intérieur et d'architecte, voilà, ça m'a permis d'enseigner des matières ardues au départ. Et puis, petit à petit, j'ai changé ma façon d'enseigner. Et j'ai appris en même temps sur le tard.
Ah bah, ça tombe bien. Blachon dit de vous, J n'est pas un dessinateur, c'est une sorte d'architecte de surface, un Giacometti de l'espace plat. Ça résume bien votre travail.
C'est joli, oui.
Petit homme qui vivait d'espoir, rencontra sur la butte un soir, femme enfant de grande beauté, fille fleur aux souliers crottés. Aussitôt son cœur a bondi, s'est senti l'âme d'un bandit. Y avait du bonheur à ravir, à une fille belle à ravir. L'aborder lui a dit bonsoir, je suis l'homme le plus riche d'espoir. J'en ai trop, j'en ai bien pour deux, et de vous je suis amoureux. J'ai l'espoir de toujours vous voir, j'ai l'espoir bientôt vous avoir. J'ai l'espoir de mettre à vos pieds les richesses du monde entier. Appris ses plus jolis espoirs, les amis dans un grand mouchoir. À la belle, il les a donnés, mais la belle les a piétinés. Elle a dit le truc de l'espoir, on me l'a déjà fait, pas d'histoire. Offre-moi des réalités, sinon sur moi faut pas compter. Petit homme qui vivait d'espoir, a pleuré dans son grand mouchoir. A pleuré tout ce qu'il savait et aussi ce qu'il ignorait. Et monté sur la tour Eiffel, il s'était lancé vers le ciel. Et retombé sur la chaussée, son sang en tout éclaboussé. Les passants de sang tout taché sont allés se faire détacher. Du moment qu'il y a des teinturiers, faut bien les faire retravailler.
Merveille.
Ouais, oui, une merveille que vous avez vous-même choisi, J. Bobby oui. Lapointe, petit oui. homme. Pourquoi ?
Pour ça, parce que d'abord il sait écrire et moi, comme j'ai beaucoup de mal, je suis un vrai dyslexique. Et j'ai beaucoup de mal avec à lire des textes, des romans et autres. Par contre, la poésie me parle plus facilement et la chanson aussi. Et lui, il joue avec les mots, il joue avec les sentiments, avec des images qui sont simples. Et je trouve ça, voilà. Et puis en plus, il a une dérision formidable. Enfin, pas une dérision, il a une vraie poésie, pardon.
Et cette poésie qui passe de l'amour au désespoir, on la retrouve dans vos dessins. Dessins exposés, je le rappelle, à l'espace Oppidum jusqu'au 16 octobre. Et un livre. Il y a un livre qui accompagne cette exposition, Matière grise. Et c'est édité par les professionnels de la profession,
oui.
que je ne connais pas et que vous allez nous faire connaître.
Professionnels de la
en
profession.
En tout cas, le livre est très beau.
C'est un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Perrier qui a créé ce label, si je puis dire, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, et qui est amoureux du dessin, c'est sa danseuse, et il met toute l'énergie pour que quelques dessinateurs puissent... être vu, en tout cas, être édité. Et ça, c'est un bonheur. On a de la chance.
Ça a été un plaisir de vous recevoir ce matin.
Mais merci.
Merci, J.
Merci beaucoup.
J s'exprime avec ses dessins. Laurent Nunez, lui, c'est les mots. Bonjour Laurent Nunez.
Bonjour Tofik.
Ravi de vous retrouver.
Et moi aussi, également.
Tous les mois, la chronique de Laurent Nunez en partenariat avec Marianne. Pas si compliqué, c'est le titre de la chronique. Pas si compliqué, consacré aux mots qui le sont un peu quand même. Hein.
Oui, aux mots qui le sont un peu, mais qui justement sont plus utilisés. Non pas parce qu'ils sont compliqués, mais parce que ceux qu'ils disaient étaient parfois affreux.
Voilà, et vous allez nous présenter aujourd'hui un mot terrible. Pseudo-scientifique qui devrait faire sourire parce qu'il est trop grotesque, trop violent, trop fou pour être pris au sérieux. Et pourtant, ce mot, ce terme médical est sérieux. Il fut pris au sérieux, en tout cas, il y a 150 ans. Et ce mot, c'est drapétomanie.
Oui, on dirait un mot barbare, hein, drapétomanie, ah oui. Mais ça provient du grec. Ça signifie la folie de fuir. Et alors ce mot, vous savez, ce mot commence à naître en 1849, lorsque la convention médicale de Louisiane choisit un docteur, le docteur Samuel Cartwright, pour faire un rapport sur les différentes maladies spécifiques aux Afro-Américains qui étaient alors détenus en esclavage. Et Cartwright examine donc de nombreux esclaves et rapporte deux ans après, en 1851, dans de multiples conférences et même dans un livre, ses conclusions pour le moins ahurissantes. Notre docteur avait en effet, au cours de deux années de recherche, identifié un trouble mental qui touchait les esclaves. Une triste maladie psychique qui poussait les esclaves noirs à fuir les plantations. Et voilà, c'est ça, la drapétomanie. Alors, cette maladie, dit le docteur, méconnue des autorités médicales, quoique facilement diagnosticable, est pourtant bien connue des surveillants de plantations, expliquait tranquillement le docteur Cartwright. Et voilà donc pourquoi les esclaves fuyaient les plantations, où ils travaillaient 16 heures par jour, où ils étaient battus et traités comme des animaux. Ils étaient pour lui, ils étaient malades, ils étaient fous. Le marronnage s'explique pour lui par la folie.
La drapétomanie fait fureur en ce moment en Syrie ou dans des endroits comme la Syrie, c'est-à-dire sinistrés. Parfois c'est incroyable, Laurent Nunez, ce que vous nous dites. Mais je suppose, puisque c'était une maladie à l'époque, une pseudo-maladie, il y avait donc sans doute des pseudo-symptômes.
Ben oui, c'est ça qui est terrible, c'est que le discours de Cartwright est extrêmement rigoureux, très raisonné. Pour lui, les symptômes d'une drapétomanie, alors je continue le livre, drapétomanie naissante, on la reconnaît, c'est un comportement grincheux, Un refus de travailler longtemps. Alors vous voyez que les symptômes sont un peu vagues. Il dit même, on reconnaît les débuts de la drapétomania, c'est le mot en anglais, chez l'esclave, par une insatisfaction sans raison.
Alors nous sommes tous drapétomanes, comme on dit.
Oui, oui, parce que finalement, nous avons tous envie de partir au loin. Nous attendons tous le week-end avec impatience, ou même les vacances de la Toussaint. Hein. Si on regarde bien, on peut même dire que notre société est drapétomane hein, dans ce cas. Regardez tout est fait, les 35 heures, les RTT, les congés payés, les ponts, les jours fériés, le week-end. Le docteur Cartwright serait fou s'il l'était pas déjà. Hein. La drapétomanie, au sens de la folie de fuir, eh ben, nous en sommes tous, heureusement, tous atteints.
Et plus sérieusement, entre guillemets, que conseille-t-il pour guérir les esclaves atteints de cette, ouvrez les parenthèses, maladie?
Oui, bah,
fermez les parenthèses. Bah,
continuons dans son délire, c'est-à-dire que comme tout était réfléchi chez le docteur Cartwright, il propose deux solutions. D'abord, on pouvait prévenir la maladie, et pour cela, il fallait, dit le manuel, traiter les esclaves avec le soin, la gentillesse, l'attention et l'humanité qu'on accorde aux enfants. Alors, c'est la fin qui est terrible, hein, qu'on accorde aux enfants, parce que bref, on les remet dans un état de soumission, on les pense encore comme des sortes d'enfants éternels, des mineurs, vous voyez, c'est ça, qui ne peuvent pas réfléchir vraiment et qui vont donc protéger d'eux-mêmes.
Et si la drapétomanie était avancée, docteur, c'est grave ?
Alors là, si l'esclave s'enfuyait de la plantation, alors en effet, on considérait que la drapétomanie avait envahi le cerveau du fugitif. Et alors là, toujours aussi ingénieux, notre brave docteur était certain qu'une bonne bastonnade pouvait traiter le trouble psychique.
Et voilà comment un mot médical justifie la violence, on y arrive.
Oui, oui, mais ce mot complètement fou, il faut le regarder en s'en moquant, et on est obligé, mais en même temps, sans trop s'en moquer, parce qu'il fournit une bonne leçon quand même. C'est que des catégories psychopathologiques, eh ben, elles peuvent servir d'argument pour discréditer des adversaires, en fait, ou pour neutraliser des objections. Tiens, songez par exemple au bloc soviétique, où les dissidents étaient considérés comme des aliénés, et envoyés d'ailleurs dans des asiles. Songez aux médecins de la fin du 19e siècle, pour qui toutes les femmes trop libres étaient ce qu'on appelle des hystériques. Songez même à Freud, qui a fait un usage abondant de la méthode d'attaque et de neutralisation, parce que Freud n'a pas été tendre, vous savez, avec les dissidents de la psychanalyse.
Pourquoi ? Il les a tous accusés d'être fous ?
Oui, presque tous. Alors si on fait un podium, alors pour lui, Jung et Rank, bah, des névrosés. Bleuler, c'est un obsessionnel. Ferenczi, c'est un psychotique. Adler, c'est un paranoïaque. Même Stekel, dont Sartre parle énormément dans L'être et le néant, et ben pour lui, c'est un pervers.
Bah, j'avoue, Laurent, que je ne connais pas tous ces noms de médecins et de psychanalystes, mais au moins, je peux reconnaître toutes ces catégories qui ressemblent quand même à des injures.
Oui, c'est la preuve que la méthode marche. Hein. Parce que Freud, en invalidant le comportement de ses adversaires, invalide du coup leur théorie, et tous ses adversaires, comme vous dites, bah, sont désormais moins connus que lui.
Oui, mais ses adversaires aussi ont dû l'accuser de plusieurs maux psychiques, non ?
Oui, ah oui, alors
c'est
oui.
Le jeu. Oui.
C'est pour ça, c'est le jeu. C'est l'arroseur arrosé. Et en effet, Freud a longtemps été accusé de narcissisme. Parce qu'on peut toujours, en effet, retourner ce genre d'attaque. Tiens, ben, ce fameux docteur Cartwright, est-ce qu'on peut pas lui dire, d'ailleurs, dire que le racisme dont il faisait preuve était une folie ? Est-ce qu'on peut pas retourner ses théories contre lui ? Eh ben, c'est ce que fit, en tout cas, il y a quelques années, un autre docteur. Le docteur Poussent, qui enseigne à l'université de Harvard. Et arguant des faits que le racisme peut parfois relever du désordre mental, c'est vrai, hein, il nota que les racistes présentaient fréquemment des symptômes associés à de graves psychopathologies comme la paranoïa, la projection et les idées fixes. Et avec une dizaine d'autres psychiatres, eh ben, il a proposé d'inclure le racisme dans le fameux, vous savez, DSM-4, le manuel de référence des troubles mentaux.
Ah ouais? Et alors?
Bah, et alors, cette demande, pour l'instant, a été rejeté.
Bah, ça m'étonne pas.
Mais qui sait ce qui se passera dans 10 ans, hein, dans 15 ans? Vous savez, Cartwright inventa la drapétomanie en 1851. 15 ans plus tard, les États-Unis abolissaient l'esclavage. Tout est possible dès qu'on se méfie des mots.
Mais est-ce qu'on utilise encore ce mot aujourd'hui, drapétomanie?
Non, absolument plus. Il a complètement disparu. Moi, je l'ai juste retrouvé dans un très bon livre, ce qui s'appelle « L'homme qui se prenait pour Napoléon », de Laure Murat, si ma mémoire est bonne. Mais sinon, il a complètement disparu, et heureusement.
Merci Laurent, et au mois prochain pour une nouvelle chronique sur ces mots compliqués. Pas si compliqués à retrouver à la page de Paso Doble. Les petits matins de France Culture continuent dans un instant. Émilie Chaudet.